Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs de quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en langue française diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal, suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices du monde entier, voici les journaux. L'Indonésie doit contribuer activement à surmonter des questions mondiales. Vice-président a dit « Les eaux de l'Indonésie doivent être bien entretenues ». Voici le bulletin complet. Les défis mondiaux doivent être abordés ensemble par toutes les composantes indonésiennes avec des capacités compétitives. L'Indonésie doit être en mesure de jouer un rôle mondial dans la contribution importante à l'ère mondiale. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'Institut indonésien des sciences LIPI, Iskandar Zulkarnain, dans la conférence de presse dans l'événement Lancement du Village Global à Jakarta lundi après-midi. Ce qui doit être fait par l'Indonésie pour faire face à l'impact de la mondialisation, nous pouvons le faire face à ne pas survivre. Mais notre concept ne priorise pas seulement la compétitivité, il ne parle que de gagnants et de perdants. Mais le concept est de savoir comment nous pouvons collaborer ensemble et coexister, et apporter ce pays de ne pas seulement survivre, mais jouer un rôle dans la mondialisation. En outre, Iskandar Zulkarnain a affirmé qu'afin de faire face et contribuer à l'ère mondiale, l'Indonésie bénéficiera de l'augmentation des taux de population active avec l'âge productif. Il est prévu que l'ajout de la population indonésienne serait de 40 millions de personnes ou atteint 280 millions de personnes qui sont dominées par l'âge productif en 2030. Selon lui, il est devenu un défi mondial et la possibilité pour l'Indonésie de se développer plus dans le monde international. Le vice-président Yusuf Kalla demande au gouvernement et à la communauté de garder la zone des eaux indonésiennes et pour éviter le vol des poissons comme un natuna il y a quelque temps. Il a dit le vice-président Kalla au palais présidentiel mardi soir, lié à l'incident de pêche illégale par des navires chinois. Le vice-président a déclaré que le TNI a fait la bonne action en donnant un coup de semonce quand ces navires ont été visités par les membres de la TNI. Selon le vice-président, le gouvernement indonésien n'enverra pas une note de protestation au gouvernement chinois liée à cet incident. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré le vice-président pour appeler l'ambassade de Chine à l'Indonésie avant d'expliquer le problème. L'arrestation des bateaux de pêche chinois dans la zone économique exclusive ZEE de l'Indonésie le 17 juin est le troisième événement auparavant. TNI a arrêté des navires chinois et de l'équipage sur les eaux Natuna en mars et mai 2016. Le professeur de droit international de l'Université d'Indonésie, Hikmahanto Juwana, déclare que l'Indonésie devait se positionné comme un pays qui est opposé systématiquement sous l'occupation de la Chine, sur la base de 9 lignes pointillées qu'il propose. Juwana, dans une déclaration écrite reçue, a déclaré mardi l'arrestation des bateaux de pêche chinois dans ZEEI par les navires agences indonésiennes, y compris la marine, en plus de l'application de la loi, vise également à faire respecter les droits souverains. Dans un certain nombre d'incidents qui se produisent et derniers poursuivis par KRI Imam Bonjol vendredi, les pêcheurs de la Chine entraient sur le territoire de la zone économique exclusive d'Indonésie. Pour les pêcheurs, sont les plus zones économiques exclusives d'Indonésie, considérées comme le territoire traditionnel pour la pêche. Le gouvernement chinois soutient également l'exercice des pêcheurs à la zone qui est considérée comme les eaux de pêche traditionnelles de la Chine. Trois pays tels que l'Indonésie, les Philippines et la Malaisie ont mené une réunion trilatérale pour discuter la continuation de l'accord de trois pays lié à la coopération de sécurité maritime autour de Sulawesi, Sambuanga et Sulu. La réunion trilatérale a été faite par le ministre indonésien de la Défense, Misatria Kudu, lors d'une visite à Mani, aux Philippines, avec son homologue des Philippines, Gasmin Tay, et celui de la Malaisie, Dato' Hishamuddin Landi. La réunion trilatérale a eu lieu dans le cadre de suivi de la première réunion des ministres de la Défense de ces trois pays, en mars de la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN en mai. À travers cette réunion, l'Indonésie, les Philippines et la Malaisie voulaient réaliser la mise en œuvre de la coopération pratique sur le champ d'une manière coordonnée pour faire face à des problèmes de sécurité des eaux frontalières en effectuant les patrouilles maritimes conjointes coordonnées. À cette réunion trilatérale, Ria Misatria Kudu a confirmé que l'Indonésie continuerait à renforcer le rôle et la contribution à le pays et au progrès dans la région de l'ASEAN. La dernière, le ministère de la Santé a déclaré que l'Indonésie n'était pas inclus dans les 46 pays qui connaissent des flambées ou des événements extraordinaires du virus Zika. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de la prévention et du contrôle des maladies du ministère de la Santé, Mohamad Subuh Mardi à Jakarta. Cette affirmation est en conformité avec les données de l'OMS sur la transmission de Zika dans le monde. Sur la base d'un communiqué de l'OMS, le 15 juin 2016, 60 pays ont signalé la transmission durable des vecteurs de moustiques. 46 pays connaissent des premières flambées de cas de virus Zika depuis 2015. Alors que 14 pays ont rapporté des preuves de transmission de virus Zika entre l'an 2007 et l'an 2014, avec une transmission durable. Tout au long de la deuxième semaine, jusqu'au 15 juin 2016, aucun nouveau pays ne rapporte la transmission de virus Zika à partir des vecteurs des moustiques ou la transmission interhumaine ou sexuelle. Pendant ce temps, le virus Zika a été découvert pour la première fois dans la salive des Singhs à Ouganda à travers la surveillance de la fièvre jaune en 1947. Ces auditeurs et auditrices, c'était le journal aujourd'hui. À demain.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « ISIS peut être vaincu ». ISIS peut être vaincu. Valuja, une ville en Irak, qui a été occupée par Pusan, la plupart a été occupée par l'armée irakienne le samedi 18 juin. Le drapeau irakien a été hissé au centre-ville de Fallujah. Un responsable militaire irakien, le lieutenant général Abdul Amir al-Samari, a déclaré que les forces irakiennes ont contrôlé 80% de la ville Fallujah, y compris le complexe principal du gouvernement. La présence des forces irakiennes à Fallujah est soutenue par l'attaque aérienne de la coalition dirigée par les États-Unis. Le premier ministre irakien Haider al-Abadi a suggéré qu'il n'y avait pas que quelques milices restent dans la ville. Cependant, le ministre américain de la Défense, Ashton Carter, a déclaré que des efforts supplémentaires sont encore nécessaires parce qu'il y a encore adeptes de l'ISIS qui contrôlaient des parties importantes de cette ville. Ce qui est arrivé à Fallujah est le progrès pour la position des forces irakiennes. Une semaine plus tôt, le 10 juin, les forces irakiennes étaient encore à 3 km du centre-ville.
Le commandant des troupes d'élite irakienne contre le terrorisme, le lieutenant Abdel Wahab al-Saadi, a déclaré l'opération militaire pour saisir Fallujah à Libyen. La stratégie d'ISIS afin d'affronter la force irakienne en dehors de la ville a échoué lamentablement. Le succès de ces attaques a causé 30 000 personnes ont fui leur maison et ont quitté la ville jusqu'au mercredi pour éviter les combats. Ce chiffre a été publié dimanche le 19 juin par le Conseil norvégien pour les réfugiés qui a construit un camp près de la ville de Fallujah. L'entrée des forces irakiennes a donné l'occasion aux résidents de la ville qui ont été piégés par ISIS depuis 2 ans de quitter la ville. En plus de 30 000 personnes ont été évacuées lorsque les forces irakiennes ont pris d'assaut Fallujah. Contrairement à Fallujah en Irak, dans la province de Raqqa en Syrie, ISIS repousse les forces gouvernementales syriennes. Le lundi, la Syrie a perdu 40 soldats et a été forcée de se retirer de Raqqa. ISIS a fait contre-attaque après que les troupes syriennes frappent Raqqa depuis le début de juin et peut avancer vers la ville Taqba. Le succès des forces irakiennes à Fallujah devrait se poursuivre avec d'autres villes qui sont encore occupées par ISIS. Malheureusement, il n'a pas été accompagné par le Syrien qui n'a pas réussi à occuper ISIS. La fusion de la commande des forces irakiennes fait les forces irakiennes plus organisées. Ce sont les principales forces qui doivent être imitées par l'armée syrienne et d'autres milices afin d'organiser ses forces militaires pour vaincre ISIS. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement l'anniversaire de Jakarta. La ville de Jakarta est appelée initialement Sunda Kelapa, ensuite changée à Batavia, plus tard par le commandant du sultanat de Demak nommé Fatahillah, ce nom a été changé à nouveau à Jakarta et enfin à Jakarta. La détermination de l'anniversaire de Jakarta se réfère à la détermination délivrée par le maire de Jakarta pour la période 1953-1958, Sudiro. Sudiro se rend compte de l'importance de l'anniversaire de cette ville. Donc, il l'a appelé un certain nombre d'historiens comme M. Muhammad Yamin et M. Dr. Sukanto, ainsi qu'un journaliste chevronné, Sudarjo Chokro Siswoyo, a examiné quand Jakarta est créée. M. Dr. Sukanto a transmis un manuscrit intitulé « De Jakarta à Jakarta ». Il est soupçonné que le 20 juin 1527 est un jour qui est le plus proche du vrai établissement de la ville Jakarta par Fatahillah. Ce manuscrit a été transmis par Sudiro au conseil municipal provisoire à discuter, qui a organisé immédiatement une séance et a décidé que 20 juin 1527 était comme la fondation de la ville de Jakarta. Exactement, le 20 juin 1956, Sudiro l'a proposé officiellement dans la session plénière et cette proposition a été acceptée à l'unanimité. Depuis ce moment, chaque le 22 juin est tenu une session extraordinaire du Conseil régional de Jakarta comme une tradition de la commémoration de l'établissement de Jakarta. L'autre information est sur l'opération Barbarossa en URSS 22 juin 1941. Les troupes allemandes pénètrent en Union soviétique. Le nom de l'opération Barbarossa. Pourtant, alerté par ses services secrets, Staline ne s'attendait pas à ce qu'Hitler rompe le pacte de non-agression signé 2 ans plus tôt. Bien qu'un ennemi du bolchevisme, Le premier ministre britannique Winston Churchill apporte aussitôt son soutien à l'URSS. La Wehrmacht, d'abord victorieuse face à une armée rouge démoralisée, sera arrêtée par l'hiver avant d'atteindre Moscou. Considérant les Slaves comme des sous-hommes et le communisme comme leur principal ennemi, les nazis mèneront en URSS une guerre bien plus cruelle qu'à l'Ouest. Cette attitude jouera en leur défaveur, stimulant le patriotisme russe au sein de toute la population. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement « Bani Sadr a été licencié comme président ». Le 22 juin 1981, le dirigeant de la révolution iranienne et le premier guide suprême de l'Iran, Imam Khomeini, a reçu la mise en accusation du Parlement qui a déclaré l'incapacité de Bani Sadr à servir en tant que président et a sorti une décision de licencier Bani Sadr. Bani Sadr était le premier président de la République islamique d'Iran élu directement par le peuple à travers des élections. Cependant, les preuves ont montré que Bani Sadr avait effectué les étapes contraires aux valeurs de la révolution islamique et même avait coopéré avec des étrangers pour renverser le système de gouvernement islamique en Iran. Le Parlement a ensuite fait massivement impeachment contre Bani Sadr. Après avoir été congédié, Bani Sadr a également fui vers la France et continue ses efforts pour saper la République islamique d'Iran à l'étranger. Serviteur, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Serviteur, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers fidèles auditeurs, auditrices, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point sur l'environnement. Et pour le titre, l'Union européenne aide l'Indonésie à sauver l'éléphant de Sumatra. La délégation de l'Union européenne à l'Indonésie dimanche dernier, 19 juin, a lancé un court-métrage documentaire sur la forêt et l'éléphant en Indonésie et a souligné l'importance de la protection de la forêt et des éléphants. Le film intitule « Sauver notre géant forêt ». Le lancement du film a été ouvert par le directeur général de la conservation des ressources naturelles et des écosystèmes du ministère de l'Environnement et des Forêts, Tahrir Fatoni, suivi de l'événement talk show avec des panélistes, y compris l'ambassadeur de l'Union européenne Vincent Gurang, producteur et acteur de ce film Nicolas Saputra et Wahdi Azmi de l'unité de réponse à la conservation de Tangkahan, la province d'Aceh. L'événement a été suivi par plus de 100 adolescents et d'autres parties prenantes. Au cours des 20 dernières années, l'Union européenne a soutenu le gouvernement indonésien à protéger les zones forestières à Aceh et Sumatra du Nord à travers un certain nombre de projets d'une valeur totale de plus de 50 millions d'euros. L'un des efforts de l'Union européenne est le programme de développement LEUSER. Ce programme a été mis en œuvre 1995-2004, appuie la conservation à long terme des écosystèmes et a réussi à former un organisme de gestion indépendant, à savoir la Fondation internationale de l'USER. L'activité qui a réussi à survivre parce qu'elle est testée avec le passage du temps et la fin du financement des bailleurs de fonds et l'unité de patrouille de l'éléphant à race Napal qui a formé les éléphants de Sumatra du Sud pour protéger l'écosystème LEUSER. En juin 2015, l'Union européenne a adopté un enfant d'éléphant nommé Aras comme mascotte de l'Union européenne. L'adoption d'Aras symbolise l'engagement de l'Union européenne à la durabilité. La mère de race éléphant nommée Tanti a été traitée par l'Union européenne dans les projets précédents. L'adoption de race pourrait attirer l'attention du public sur l'importance de la protection des forêts et les efforts de la lutte contre le changement climatique. Ensuite, en octobre 2015, la délégation de l'Union européenne a adopté un bébé d'éléphant nommé Europe de l'unité de la réponse à la conservation de Tangkahan. L'unité de la réponse à la conservation de Tangkahan soutient la conservation et l'écotourisme à base de la communauté dans la zone de l'écosystème Leuser. Dans un communiqué de presse reçu par RRI lundi, le 20 juin, l'Union européenne appelle le film « Sauver notre géante forêt » vise également à augmenter la sensibilisation et encourager la recherche sur les nouveaux virus de l'herpès WHV. Ce virus peut causer une maladie hémorragique sévère chez les éléphants et une mortalité élevée chez les jeunes éléphants asiatiques âgés d'un à 8 ans. La mort peut se produire dans 1 à 2 jours des symptômes initiaux. Donc, le diagnostic précoce et le traitement est très important pour la survie des éléphants. L'Union européenne évalue que les études et les recherches continuelles est une bonne solution pour gérer, prévenir et contrôler la propagation de la maladie afin d'assurer la durabilité et la conservation des éléphants. La coopération de perfectionner le traitement efficace et le développement de vaccins pour prévenir WHV est très important pour l'avenir des éléphants. Sagittaire, c'était la mise au point sur l'environnement de la Voix de Nizi à Jakarta.
Les défis mondiaux doivent être abordés ensemble par toutes les composantes indonésiennes avec des capacités compétitives. L'Indonésie doit être en mesure de jouer un rôle mondial dans la contribution importante à l'ère mondiale. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'Institut indonésien des sciences LIPI, Iskandar Zulkarnain, dans la conférence de presse dans l'événement Lancement du Village Global à Jakarta lundi après-midi. Ce qui doit être fait par l'Indonésie pour faire face à l'impact de la mondialisation, nous pouvons le faire face à ne pas survivre, mais notre concept ne priorise pas seulement la compétitivité, il ne parle que de gagnants et d'un perdant, mais le concept est de savoir comment nous pouvons collaborer ensemble et coexister, et apporter ce pays de ne pas seulement survivre, mais jouer un rôle dans la mondialisation. En outre, Iskandar Zulkarnain a affirmé qu'afin de faire face et contribuer à l'ère mondiale, l'Indonésie bénéficiera de l'augmentation des taux de population active avec l'âge productif. Il est prévu que l'ajout de la population indonésienne serait de 40 millions de personnes ou atteint 280 millions de personnes qui sont dominées par l'âge productif en 2030. Selon lui, il est devenu un défi mondial et la possibilité pour l'Indonésie de se développer plus dans le monde international. Le vice-président Yusuf Kalla demande au gouvernement et à la communauté de garder la zone des eaux indonésiennes et pour éviter le vol des poissons comme un natuna il y a quelque temps. Il a dit le vice-président Kalla au palais présidentiel mardi soir, lié à l'incident de pêche illégale par des navires chinois. Le vice-président a déclaré que le TNI a fait la bonne action en donnant un coup de semonce quand ces navires ont été visités par les membres de la TNI. Selon le vice-président, le gouvernement indonésien n'enverra pas une note de protestation au gouvernement chinois liée à cet incident. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré le vice-président pour appeler l'ambassade de Chine à l'Indonésie avant d'expliquer le problème. L'arrestation des bateaux de pêche chinois dans la zone économique exclusive ZEE de l'Indonésie le 17 juin Et le troisième événement auparavant, TNI a arrêté des navires chinois et de l'équipage sur les eaux Natuna en mars et mai 2016. Le professeur de droit international de l'Université d'Indonésie, Hikmahanto Juwana, déclare que l'Indonésie devait se positionner comme un pays qui est opposé systématiquement sous l'occupation de la Chine, sur la base de 9 lignes pointillées qu'il propose. Juwana, dans une déclaration écrite reçue, a déclaré mardi l'arrestation de bateaux de pêche chinois dans ZEEI par les navires agences indonésiennes, y compris la marine, en plus de l'application de la loi vise également à faire respecter les droits souverains. Dans un certain nombre d'incidents qui se produisent et derniers poursuivis par KRI Imam Bonjol vendredi, les pêcheurs de la Chine entraient sur le territoire de la zone économique exclusive d'Indonésie. Pour les pêcheurs, sont les plus zones économiques exclusives d'Indonésie, considérées comme le territoire traditionnel pour la pêche. Le gouvernement chinois soutient également l'exercice des pêcheurs à la zone qui est considérée comme les eaux de pêche traditionnelles de la Chine. Trois pays tels que l'Indonésie, les Philippines et la Malaisie ont mené une réunion trilatérale pour discuter la continuation de l'accord de trois pays lié à la coopération de sécurité maritime autour de Sulawesi, Sambuanga et Sulu. La réunion trilatérale a été faite par le ministre indonésien de la Défense, Ria Misatria Kudu, lors d'une visite à Mani, aux Philippines, avec son homologue des Philippines, Gasminte, et celui de la Malaisie, Dato' Hishamuddin Landi. La réunion trilatérale a eu lieu dans le cadre de suivi de la première réunion des ministres de la Défense de ces trois pays, en mars de la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN en mai. À travers cette réunion, l'Indonésie, les Philippines et la Malaisie voulaient réaliser la mise en œuvre de la coopération pratique sur le champ d'une manière coordonnée pour faire face à des problèmes de sécurité des eaux frontalières en effectuant les patrouilles maritimes conjointes coordonnées. À cette réunion trilatérale, Ria Misatria Kudu a confirmé que l'Indonésie continuerait à renforcer le rôle et la contribution à le pays et au progrès dans la région de l'ASEAN. La dernière, le ministère de la Santé a déclaré que l'Indonésie n'était pas inclus dans les 46 pays qui connaissent des flambées ou des événements extraordinaires du virus Zika. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de la prévention et du contrôle des maladies du ministère de la Santé, Mohamad Subuh Mardi, à Jakarta. Cette affirmation est en conformité avec les données de l'OMS sur la transmission de Zika dans le monde. Sur la base d'un communiqué de l'OMS, le 15 juin 2016, 60 pays ont signalé la transmission durable des vecteurs de moustiques. 46 pays connaissent des premières flambées de cas de virus Zika depuis 2015. Alors que 14 pays ont rapporté des preuves de transmission de virus Zika entre l'an 2007 et l'an 2014 avec une transmission durable. Tout au long de la deuxième semaine jusqu'au 15 juin 2016, aucun nouveau pays ne rapporte la transmission de virus Zika à partir des vecteurs des moustiques ou la transmission interhumaine ou sexuelle. Pendant ce temps, le virus Zika a été découvert pour la première fois dans la salive des cygnes à Ouganda à travers la surveillance de la fièvre jaune en 1947. Ces auditeurs et auditrices, c'était le journal aujourd'hui. À demain.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.radioreppublikeindonesia.org. www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie. Pour la rubrique suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec Apprendre l'Indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver à nouveau dans le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous rendre à Myangas. Alors, soyez toujours avec nous. Vous pouvez suivre les émissions de La Voix de l'Indonésie, le service international de RRI, soit sur Onkut, soit vous pouvez nous écouter sur www.voi.co.id. Chers auditeurs, l'Indonésie a de nombreux objets touristiques à partir du tourisme naturel et le tourisme marin jusqu'au voyage culinaire. L'un des tourismes marins en Indonésie est l'île Myangas. L'île Myangas est l'île extérieure de l'Indonésie qui est située à la frontière entre l'Indonésie et les Philippines. Cette île est située dans le village de Myangas, sous-communauté de Nusa, la résidence des îles de Talaut, Melangwan, Sulawesi du Nord. L'île Myangas a seulement une superficie de 3,5 km² avec 1000 populations. Ce n'est pas facile de visiter cette île. Il a besoin de la route parce qu'il n'y a pas toujours de navire d'arrêter ou de venir à cette île. Si vous partez de Melangwan, la distance est environ 110 000. De Manado, il a une distance d'environ 320 000. Pour visiter un endroit qui a besoin de route est un défi pour les touristes. Voilà pourquoi l'île Myangas devient une cible de destination spéciale. Outre la beauté et le panorama exotique de cette île, son emplacement qui est la frontière au nord de l'Indonésie devient également l'une des cibles. Il y a une fierté pour certains touristes à visiter cette île. En outre, prendre la photo sur cette île qui a beaucoup d'arrière-plan historique est très intéressant. Bien que Myangas soit une petite île, explorer toute la beauté marine sur l'île Myangas ne suffit pas pour une seule journée. Il y a beaucoup de belles plages sur l'île Myangas, avec des eaux très claires, les richesses maritimes sur cette île sont plus visibles. L'une d'elles est à la plage Rapkuna. Du quai, beaucoup de poissons peuvent être vus clairement. Il y a aussi le cap de Panci, qui est un lieu favori pour la pêche. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « L'île Myangas ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id. www.awr.co.id.
Pour comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici Apprendre l'Indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Le sujet pour aujourd'hui est téléphone ou en français téléphone. D'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliant au sujet de ce soir. Je vais prononcer deux fois. Et vous pouvez répéter après moi. Allô, allô, en français, allô. Selamat malam, en français, bonsoir. Maaf, maaf, en français, désolé. Apa ada pesan, en français, y a-t-il un message? Tidak ada. Tidak ada. En français, non. Saya akan telepon kembali. Saya akan telepon kembali. En français, je vais téléphoner à nouveau. Anda siapa? Anda siapa? En français, qui êtes-vous? Adik, laki-laki. Adik, laki-laki. En français, petit frère. Terima kasih. En français, merci. Chers amis, maintenant je vais donner l'exemple de conversation ayant pour titre téléphone. En français, téléphone. Cette conversation entre Richard A et Danu B. A. Hello. A. Allô. En français, allô. B. Allô. Selamat malam. Allô. Selamat malam. En français, allô. Bonsoir. A. Saya Richard. Apakah Tuan Alex ada? Saya Richard. Apakah Tuan Alex ada? En français, je suis Richard. Monsieur Alex est là? B. Maaf, Tuan Alex sedang rapat. Apakah ada pesan? Maaf, Tuan Alex sedang rapat. Apakah ada pesan? En français, je suis désolé. Monsieur Alex était en réunion. Y a-t-il un message? A. Tidak ada. Saya akan telepon kembali. Anda siapa? Tidak ada. Saya akan telepon kembali. Anda siapa? En français? Non. Je vais téléphoner à nouveau. Qui êtes-vous? B. Saya Danu. Adik laki-laki Tuan Alex. Saya Danu, adik laki-laki Tuan Alex. En français, je suis Danu, le petit frère de Monsieur Alex. A. Tuan Danu, terima kasih. Selamat malam. Tuan Danu, terima kasih. Selamat malam. En français, merci Monsieur Danu. Bonsoir. B. Selamat malam. En français, bonsoir. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure notre programme Apprendre l'Indonésien. Merci à tous et à bientôt.
Serge Rita, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde, voici le magazine de musique de la voix de l'Indonésie, édition de mercredi. Pour ce soir, avec le chanteur de pop Faris Rustamunaf, ou connu Faris FM. Chers amis, dans le quatre coins du monde, comme le début de notre rencontre, allez écouter la première chanson de Faris Rustamunaf intitulée Sakura.
Antara kita menyandang anggunnya peranan jiwa asmara terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertemu semenjak ini sehidup semati kian lama kian pasrah ku rasakan jua janji yang terucap tak mungkin terhapus saja walau rintangan berjuta walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara
Chers amis, Faris Rustamunaf, il est né de la famille qui aime la musique. Et vous savez, son père est le diplomate. Bien sûr, il est souvent parti à l'étranger. Et vous savez aussi, sa musique a commencé à l'âge de 12 ans, quand ses amis Debi Nasution, Odin Nasution, avec lui, ont fondé le groupe nommé Young Gypsy, qui présente le genre musical de rock et blues. Puis, avec ADMS, Haji Sutama et Iman RN, on fait l'opérette d'adieu à leur école. On peut dire que cette chanson de Faris Rustamunaf montrerait son talent musical. En 1977, avec encore ses amis, Haji Sutama, Redi Nur, ADMS et Ikang Fauzi, ils ont participé dans le concours de chansons de jeunesse organisé par la station de radio Prambors à Jakarta. Bien que Faris et ses amis ont remporté 3e prix, mais beaucoup de propositions et œuvres de son groupe s'approchent à eux. Chers amis, avant de continuer, écoutez encore la 12e chanson de Faris Rustamunaf intitulée « Barcelona ».
Thank you. cintaku di Barcelona.
Chers amis, après avoir passé au lycée, Faris continue ses études aux Beaux-Arts de l'Institut de Technologie de Bandung en 1978. En étudiant à l'université, il se développe son talent de musique en rejoignant avec certains groupes de rock comme John Step et The Rollies à Bandung. Tout cela pour jouer comme le clavier de groupe de John Step et à la batterie pour le groupe de Rollies. De plus, il a aidé le musicien Harry Rusli pour le projet musical en 1979. Chers amis, c'était le magazine de musique avec Faris Rustamunaf. Et avant de terminer notre rencontre, écoutez deux dernières chansons de Faris intitulées Panggung Perak. Merci de votre fidélité et attention, bonne écoute et au revoir.
Pasti tercipta kini di relum pesona yang beranjak menyepi. Ku pandang gelap telah berlalu seolah terlintas bagai impian sunyi yang mengawali kisah legenda kehidupannya. Terbiasa terucap kata terlanjur jelita di bayang pesona hanya merenung kalbu berkabung menyesali diri bagai impian sunyi yang mengawali kisah legenda kehidupannya. Apa yang terjadi dibayangkan nanti sirna dan berganti kini. Semua telah terjadi tanpa disadari hanya kurnia terbukti. Tak terbiasa mengucap kata terlanjur jelita di bayang pesona hanya merenung kalbu berkabung menyesali diri bagai impian sunyi yang mengawali kisah legenda kehidupannya. Apa yang terjadi dibayangkan nanti sirna dan berganti kini. Semua telah terjadi tanpa disadari hanya kurnia terbukti. La 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 la.
Chers auditeurs et auditrices, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.